bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à chacun dans la maison du Seigneur. Et vous avez entendu le fameux chapitre 15 de l'évangile de Luc, la partie du fils prodigue. Donc, certains théologiens à raison ont dit que c'était la quintessence de l'évangile, l'essentiel du message. Et aujourd'hui, je voudrais que nous écoutions l'évangile de Matthieu, cette fois. Et je vous propose une lecture dans chapitre 20 de l'évangile de Matthieu, à partir des versets 17. Et lui, Jésus, en montant vers Jérusalem, prend les 12, uniquement eux. Et sur la route, il leur dit, « Voyez, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'humanité sera abandonné par les grands sacrificateurs et les lettrés, et ils le condamneront à mort. Et ils l'abandonneront aux autres pour le ridiculiser, le fouetter, le crucifier. Mais au troisième jour, il sera réveillé. » Alors s'approche de lui la mère des fils de Zébédée et ses fils, qui embrassent le sol devant lui en réclamant quelque chose de lui. Voilà qu'il lui dit, « Que désires-tu ? » Et elle lui répond, « Demande que ceux-là, mes deux fils, soient assis un à ta droite et un à ta gauche dans ton royaume. » Mais Jésus répond en disant, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Avez-vous la force de boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent, « Nous en avons la force. » Et il leur dit, « Ah oui, ma coupe, vous la boirez. Mais quant à s'asseoir à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, mais destiné à qui a été préparé, par mon Père. » Oui, ayant tout entendu, les 10 s'enflamment contre les deux frères. Et lui, Jésus, les appelle et dit, « Vous savez bien que chez les autres, ce sont les chefs qui ont pouvoir sur eux. Oui, ce sont les grands qui ont autorité sur eux. Eh bien non, ce ne sera pas la même chose parmi vous. Et qui voudrait devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et qui voudrait parmi vous être le premier sera votre esclave. » Même chose pour le Fils de l'humanité, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon de beaucoup. Et en quittant Jéricho, une immense foule le suivait. Oh, voyez, deux aveugles, assis au bord de la route, ont entendu que Jésus passait, et poussent des cris perçants en disant, « Seigneur, aie pitié de nous, fils de David. » Et la foule les reprend pour qu'ils gardent le silence. Mais lui, Jésus, s'arrête, les interpelle et dit, « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» Eux lui disent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému au plus profond de lui, voilà que lui, Jésus, touche leurs yeux. Et aussitôt, il recouvre la vue et l'accompagne. Voilà, jusqu'ici, notre lecture. Donc, Jésus vient d'annoncer pour la troisième fois, au seuil de Jérusalem, aux 12, sa mort et sa résurrection. Il avait déjà annoncé, rappelé au chapitre 16, versets 21 à 23, et au chapitre 17, versets 22 à 23. Et notez que le mot « résurrection » est traduit dans le texte grec, comme nous l'avons entendu, par « il sera réveillé ». C'est le terme grec qui convient, c'est le terme de la résurrection. Il annonce aussi qu'il sera livré aux mains des responsables religieux, comme il avait parlé en chapitre 16, 21, et livré aux païens, comme il avait dit au chapitre 17, verset 22. Et la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, comme nous l'avons appris, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui quittent leur père pour suivre Jésus, et qui sont au chapitre 4, verset 21, et puis qui figurent dans la liste des 12 disciples, au chapitre 10, verset 2. C'est ce moment que choisit la mère des fils de Zébédée pour faire une demande à Jésus. Entendu au verset 21. À noter que dans l'évangile de Marc, le texte parallèle, c'est directement les deux frères qui font leur demande à Jésus. Et d'ailleurs, dans notre passage, ce sont Jacques et Jean qui continuent le dialogue avec Jésus, confirmant bien leur accord avec la demande de leur mère. Par leur demande, ils manifestent qu'ils sont héritiers d'une espérance qui les a fait quitter leur père et suivre Jésus. Et quant à leur mère, jamais désignée par son nom, et j'entendais un jour un pasteur qui parlait des pèlerins d'Emmaüs, où on ne connaissait pas le nom, et le pasteur évoquait le fait que peut-être quand on n'entend pas le nom, c'est peut-être que chacun de nous peut se mettre à la place des pèlerins d'Emmaüs, chacun de nous peut se mettre à la place de la mère des fils de Zébédée. Et donc, jamais désignée, elle esquisse quand même les contours que doit prendre, selon elle, l'espérance. Et elle ne s'y trompe pas, elle s'adresse au Christ siégeant dans son royaume. Et les désirs de cette mère vont être contrebalancés par la figure du Père. C'est lui seul qui décide des places au dernier jour. Jésus lui-même ne le sait pas. Il confesse que cela ne dépend pas de lui. La seule chose certaine, c'est que les deux frères boiront la coupe de Jésus, verset 23. C'est-à-dire qu'ils seront rejetés comme leur maître. Au total, si on veut résumer les choses, d'un côté, deux frères qui entrent le dessein de la toute-puissance de leur mère, et de l'autre, un fils bien-aimé, comme nous rappelle lors de son baptême, la voix qui vient du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce fils bien-aimé qui accepte pourtant de ne rien savoir sur la décision de son père, tant sur la place réservée à sa droite et à sa gauche, que sur le jour et sur l'heure de son avènement. Au total, donc, deux représentations opposées de la filiation. Et on fait évoquer aussi ce texte en Matthieu 12, 46-50, épisode où Marie, la mère de Jésus, et ses frères viennent et veulent parler à Jésus et se croient une sorte de priorité pour, donc, mère et frère, pour parler à Jésus et pour rappeler des paroles du Christ, hein, qui sont ma mère, mes frères, notre conception. Donc une représentation opposée de la filiation. Et cependant, si on continue notre lecture, ces deux femmes, qu'il s'agisse de la mère des fils de Zébédée, qu'il s'agisse de Marie, mère du Christ, ont accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. C'est ce qu'on apprend dans Matthieu 27, au verset 55. Et ces deux-là vont se retrouver aussi au pied de la croix. On apprend au verset suivant, Matthieu 27, 56, alors que la plupart des 12 sont absents. Quel cheminement pour ces femmes, après s'être imaginé une place particulière par le biais de leur fils. Je suis la mère de Jacques et de Jean, ou je suis la mère du Christ. Elles ont dû apprendre à se débarrasser de leur certitude, de leur façon considérer Jésus, pour se comporter en disciple, avant même les douze. Et puis le récit continue dans les versets suivants, où les dix autres s'insurgent sur la demande abusive de Jacques et Jean. On remarque que Jésus n'en rajoute pas sur les reproches, il élimine ça. Il se contente seulement de leur dire de ne pas ressembler aux puissants qui oppriment le peuple. Verset 25, et celui qui veut être grand doit servir. Celui qui veut être le premier doit être esclave, versets 26 et 27. C'est cette même logique de renversement qui prévaut en Matthieu 11, hein, quand Jésus parle de Jean-Baptiste, il dit il n'y en a pas de plus grand qui soit né de femme, cependant il est le plus petit dans le royaume des cieux. Et autre renversement aussi en Matthieu 19, 30, où parabole où plusieurs des premiers seront les derniers. Pareil en Matthieu 20, verset 16, hein, concernant les fameux travailleurs de la 11e heure, qui reçoivent le même salaire que ceux qui étaient là depuis le début de la journée. Le Fils de l'homme qui donne sa rançon pour plusieurs, comme annoncé dans Ésaïe 53, hein, verset 12, c'est ce Fils de l'homme qui montre le chemin de ce service. Et puis, la deuxième partie du récit concerne les deux aveugles de Jéricho et renvoie à un récit que vous avez sans doute en tête de Matthieu 9, hein, 27-31, c'est aussi une guérison d'aveugles. Deux différences quand même avec par rapport à cette guérison-là du chapitre 9. D'une part, ici les aveugles sont empêchés, nous l'avons entendu, par la foule, contrairement en Matthieu 9, 28, où l'accès de Jésus semble plus facile. Et surtout, d'autre part, à la suite de la guérison, les aveugles désobéissent immédiatement à la consigne de silence donnée par Jésus au verset 30 et 31. Alors que dans notre texte du chapitre 20, une fois guéris, ils suivent Jésus. Alors que les aveugles du chapitre 9 avaient suivi Jésus avant la guérison, dans le chapitre 20, c'est au seuil de l'arrivée à Jérusalem. Ils recouvrent la vie et suivent Jésus, donc après leur guérison, vers Jérusalem. Certains théologiens ont vu dans ces deux aveugles une figure de la communauté en création. Oui, la suivance de Jésus n'a pas été un parcours simple à suivre pour les premiers disciples, pour Jacques, pour Jean, pour leur mère, pour Marie, la mère de Jésus, pour les deux aveugles, pour tous les disciples. Est-ce que ça le serait pour nous qui sommes appelés aussi à être disciples 2000 ans après ? Je ne crois pas. Nous avons peut-être à nous délester de ce à quoi nous croyons pouvoir prétendre en tant que disciples, tels que Jacques, Jean, sa mère, tels que pouvait le prétendre Marie, la mère de Jésus. Nous délester de nos petites vérités que nous sommes plus autorisés à imposer à ceux qui nous entourent, parfois même au nom de Dieu. Nous avons peut-être à apprendre à obéir au Seigneur après qu'il nous ait guéris, comme ces aveugles, plutôt que d'en faire à notre tête dès la guérison obtenue, comme les premiers aveugles du chapitre 9. Mais c'est bien l'intimité de notre relation avec Christ qui nous transforme. Elle a transformé les suiveurs contemporains de Jésus en disciples. Et comme l'écrivait le théologien protestant Jacques Ellul dans une méditation sur l'Ecclésiaste, il disait, voilà, je dois, nous devons lutter contre la tentation permanente de substituer mon intérêt, ma personne, à ce qui est au centre de la révélation, à savoir la personne de Christ. Continuons donc à cultiver, à approfondir notre relation avec notre Seigneur qui nous appelle à être ses disciples. Paul, à cet égard, est un exemple pour nous. Après sa conversion par l'Esprit du Seigneur, il est lui aussi devenu aveugle. Il a été capable de remettre en question toutes ces vérités religieuses passées, comme il le montre bien dans ses écrits, pour suivre Jésus et devenir son disciple, en témoignant à Timothée qu'il poursuit sa course sans en avoir encore obtenu le prix. C'est ce qui nous attend à chacun d'entre nous si nous voulons bien continuer la course, poursuivre le bon combat. Et en écoutant le texte de Luc 15, ce père qui est ému quand son fils revient vers lui. Et je vérifiais dans la version, c'est le même mot que il est ému de compassion pour ses aveugles. C'est un mot très puissant, puisque en grec, c'est quelque chose qui parle du splanchnique. Splanchnique, c'est des organes le plus profond, dans le ventre, au fond de nous. Il est touché au fond de lui-même. Il y a tout qui est touché. Et je me disais, il a été touché par son fils, revenu à lui, et il est touché par ses aveugles de la même manière. Oui, nous pouvons être appelés ses enfants. Ce n'est pas un vain mot. Il nous traite de la même manière, avec ce même regard vis-à-vis de son fils. Et c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, mais nécessite de rendre grâce, de réfléchir. Ce Dieu-là qui est touché aux entrailles par ce que nous sommes, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous avons fait. C'est ce Dieu-là qui nous regarde comme un fils. Et vraiment, je crois que ça nous dépasse et nous pouvons louer l'Éternel de ce grand amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous arrivons maintenant au moment de la scène et nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre bien connu, chapitre 26. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez et mangez ceci. Mangez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père, qui est aussi notre Père. Et en parlant de son cœur, de son corps, pardon, à propos du pain rompu, Jésus institue vraiment une communion avec ses disciples, avec nous, qui voulons être ses disciples. En parlant du sang de l'Alliance, il renvoie à l'Alliance mosaïque, scellant l'Alliance entre Dieu et son peuple, sauf que la précision pour beaucoup, pour une multitude, dépasse le cadre strictement judaïque. Ce n'est plus par le sang des animaux que se conclut l'alliance entre Dieu et l'humanité, mais dans la vie de Jésus, par qui Dieu désormais inscrit sa volonté de réconciliation avec justement cette humanité. En participant à cette coupe, les disciples et nous donc, à présent, sommes intégrés dans cette alliance. Et puis, Jésus termine sur une promesse, l'attente du banquet où Jésus goûtera le vin nouveau du royaume des cieux avec ses disciples, avec nous. Voilà bien l'espérance des disciples, que chacun mange et boive le pain et le vin dans cette espérance joyeuse pour ce repas. C'est nickel.